bit of the bubbly.
That's undisputed.
I'm better than you, and you know it.
And we are NXT.
War Games.
Salut à toi le Marc. Salut à toi le Smart. Salut à toi le Smark. Salut à toi, peuple de catch-up. Bienvenue sur votre podcast qui transpire, qui suinte, qui dégouline et qui transpire encore le catch chaque semaine. Nous analysons, nous décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE, mais pas que, parce que aujourd'hui, on va parler de la NXT et de la All Elite Wrestling. Alors préparez la trousse à pharmacie. C'est AEW versus NXT pour la review catch-up de la baston du mercredi. Oui, ça fait un moment, l'épisode 12, ça faisait un petit moment qu'on était parvenu vers vous avec les deux shows du mercredi. Ces choses réparées, ces choses faites. Je suis votre tonton Chris, votre Luchasaurus, et ça tombe bien, puisque aujourd'hui, je suis accompagné, mon tag team partner of the day n'est autre que le bon papy. Salut papy.
Bonjour, salut à toi, peuple du catch-up, salut à toi, tonton. Comment ça va?
Alors ça va papy, t'as eu besoin un peu d'oxygène pour pouvoir t'enquiller les deux shows NXT et AEW cette semaine, pour participer à ta première baston?
Exactement, je voulais être prêt et armé pour la première baston, donc du coup j'ai suivi les deux shows en entier, et j'en ai mangé du catch.
Ah, vous voyez comment on bosse un peu à catch-up les amis, quoi, hein, voilà, hein, on se regarde des shows, même les shows les plus improbables. Et là, pour le coup, la bagarre AEW NXT, c'est une bagarre quand même véritable, finalement, en termes de ratings, déjà, entre autres. Comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur l'émission, pour vous donner un peu un ordre d'idée, la NXT, pendant trois semaines consécutives, je crois, avait battu la All Elite Wrestling dans les ratings. C'était genre fin juin, début juillet, un peu après l'épisode 11, on vous avait laissé, qui, je crois, datait quelque chose comme du 10 juin ou 11 juin. Et là, ces dernières semaines, c'est la AEW qui a repris le dessus, et même assez largement d'ailleurs. En fait, là, ça fait deux mercredis de suite qui creusent quand même pas mal l'écart entre les deux shows. Et nous, on est là pour reviewer les shows Dynamite et NXT du mercredi 29 juillet 2020. Voilà, ceux qui viennent de passer juste mercredi. On va attaquer avec NXT, papy, ça te va?
Ça me va très bien.
Alors, on va attaquer avec la troisième brand de la WWE. Voilà, donc pour situer un petit peu l'affaire, puisque ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé, juste pour information, sachez que Yoshirai est la championne féminine, que Imperium sont les champions tag team, que Keith Lee est le champion NXT Undisputed, et que le titre, si je ne me gourre pas, le titre North American Champion a été laissé vacant par Keith Lee, qui avait donc gagné les deux ceintures. Et il va y avoir bientôt, pour le prochain takeover avant SummerSlam, il va y avoir un ladder match.
Ouais, c'est un match à l'échelle.
Voilà, ouais. Voilà, un match de l'échelle pour déterminer le nouveau champion. Et d'ailleurs, vous verrez, ça fera partie de notre main event de NXT. Alors NXT, mon bon papy, NXT, ça a commencé avec les filles. Ça a commencé avec Yoshirai, qui est en pleine feud en ce moment, qui est donc la championne et qui est en pleine feud et qui est attaquée par Dakota Kai. Dakota Kai qui elle-même est aussi en feud en même temps avec Tegan Nox et aussi avec Candice LeRae. Alors tout ça, ça fait un bon bazar, ça tombe plutôt pas mal finalement, parce que de toute manière, elles doivent s'affronter ce soir dans un match par équipe. Et voilà, et donc d'entrée, on va avoir un tag team match avec Yoshirai et Tegan Nox qui vont affronter Candice LeRae et Dakota Kai.
Oui, voilà. C'est ça.
Et alors, on va avoir un match relativement long, un opener de 13 minutes entre les filles. Yoshirai, en ce moment, est vraiment en haut de la vibe, hein, depuis qu'elle a remporté le titre. Vraiment, quoi, elle surfe sur la division féminine, c'est assez clair. Voilà, pour moi, il y a pas. Alors, bon, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, hein, durant des bastons du mercredi, toute l'affection que je portais à Yoshirai. Mais voilà, du coup, on a un match solide avec une japonaise bien déchaînée en début de match, en particulier contre la néo-zélandaise. Mais il va y avoir de la résistance des deux heels. Alors, avec une Candice LeRae qui est dans une version un peu plus dark dorénavant, avec les cheveux violets, avec du maquillage gothique. Voilà, le nouveau personnage, le couple terrible Gargano LeRae qui, qui s'installe. Et voilà. Mais on va avoir un match assez classique et qui va se terminer avec un Shiniest Wizard de Tegan Nox sur Candice LeRae qui va pas résister au Moonsault à la suite. Victoire. Dakota Kai va se barrer direct après le match et va laisser tomber là Candice LeRae comme une vieille merde. Et Tegan Nox vont célébrer cette victoire. Oui, papy.
Oui, non, mais la raison de la laisser tomber, attends, c'est Madame Gargano, là. Les Gargano, c'est aux chiottes. On s'en fout des Gargano. On les abandonner. Non, plus sérieusement, ouais, un petit opener sympathique. Je suis pas un grand fan de Tegan Nox, moi. Ça fait quelques semaines que j'ai. Alors, autant les EW, là, je débute vraiment. Autant NXT, ça fait quelques semaines que j'ai repris. J'avais repris un peu avant le dernier takeover, de mémoire. Et du coup, Tegan Nox, je le trouve un peu. Light quoi, vraiment. Enfin, je pense qu'elle a peut-être des capacités, mais pour l'instant, je le trouverai assez loin du niveau requis pour. Tu sais, c'est pas le genre de personne où je vais me dire, oulala,
vive. Elle est jeune, hein.
Roster.
Elle est jeune. Elle a du temps. Hein. Elle a 24 ans, je crois. Donc,
24. Donc, on voit vraiment que c'est un quelque chose, un produit assez brut. Il faut qu'il travaille un peu là. Il faut surtout qu'elle vire son choke slam de son moveset parce que. Alors, je sais pas. Je me souviens même plus s'il l'a fait là, mais. Je sais que ça m'a choqué quand elle l'a fait dans les autres matchs parce que bon, elle fait 1m30, donc un choc slam de quelqu'un de pas très grand, ça rend pas terrible. Mais sinon, voilà, ouais, c'est. Bon, là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de passer une nouvelle génération là sur NXT.
Ouais, ah, mais clairement, ouais, là en ce moment, on est Mario sur une passation. Ouais. Oui, clairement, on est sur une passation de pouvoir chez les filles un peu là depuis quelques mois là. Et puis l'arrivée.
Pas d'antenne quoi, pour prendre de l'expérience, je pense.
Puis Yoshirai qui est arrivé en grande pompe et puis qui domine quand même largement la division féminine du jaune et noir. Alors bon, c'est bien. Comme on se voit pas régulièrement pour la baston du mercredi, les amis, puis que pour Papy, c'est sa première, c'est bien parce que ça nous permet un peu de recadrer un peu tout ce qui se passe à l'heure actuelle, que ce soit au niveau storyline et tout. Donc du coup, c'est intéressant. Les filles, effectivement, sont dans une phase un peu de basculement finalement suite au départ de nombreuses filles du roster sur les 2-3 dernières années, que là du coup on a un gros renouvellement et donc dont la galloise Tegan Nox fait partie, qui effectivement est jeune et voilà, mais là c'était surtout pour appuyer Yoshirai sur ce match tag team, voilà, victoire des face, puisque Yoshirai est quand même redevenu face finalement hein, sur un espèce de face turn qui n'a pas voulu dire son nom. Et voilà où ça en est pour chez les filles. On va voir quelle sera la suite pour Takeover du côté de la division féminine. On part chez les gars. Alors écoute, au moins c'est comme ça, c'est réglé dès le début de notre review, mon cher papy. On s'est tapé Candice LeRae. Maintenant, on va se coltiner Johnny Gargano, hein, à ton grand dame. Puisque Peuple Catch-up, allez sur Discord et vous verrez à quel point papy déteste cordialement Johnny Wrestling.
Johnny Gargano.
Voilà, et donc on va avoir un match finalement Cruiserweight, j'ai presque envie de dire, entre Johnny Gargano et Roderick Strong de l'Undisputed Era, voilà, qui se chamaille un peu depuis quelques épisodes, et voilà, et là qu'on réglait ça dans un match de 9 minutes 20. Voilà, finalement un truc pas très très long, donc ça a dû te rallier. Alors par contre, les commentateurs étaient chauds, hein, puisqu'ils nous annoncent carrément que c'est un match de calibre pay-per-view, quoi. Alors tu vas pouvoir nous dire ce que t'en penses, quoi. Et effectivement ça a donné pas mal. Gargano, après la première pause pub, il va finalement un peu prendre l'avantage dans le match au fur et à mesure, placer des choses. Mais Roderick Strong, lui, c'est un gros batailleur hein, dans le ring, quoi. Donc il revient systématique, il va réussir à poser deux gros backbreakers. Le match va devenir de plus en plus stiff, ça va partir en ATMI, en chop dans tout genre, et ça va être bien, bien, bien tendu sur cette fin de match. Et finalement, la fin de match va quand même voir Gargano surprendre Strong. Qui venait de remonter sur le ring pour essayer, mais qui va prendre un final beat. Voilà, et on va avoir une victoire de Johnny Gargano, papy. Alors,
l'horreur.
Comment tu t'es senti après là?
Je me suis senti malade directement. Hein. J'ai vomi mon déjeuner à la suite de cette victoire de Gargano, qui était incompréhensible. Non, bah, après, bon, je vais pas redire tout ce que je pense de mal de Gargano.
Tu peux le dire, c'est ta première baston du mercredi, c'est un peu le thème de cette review. Dans cette review, tu peux te lâcher, on se bagarre, on se bastonne.
Gargano, c'est un espèce de fake face, quoi. C'est un mec qui est heel depuis le début, qui a un comportement détestable et qui est juste là parce qu'il a un soutien du public qui fait This is awesome dès qu'il fait un ATMI ou alors qu'il fait ses lacets, quoi. Il est pas mauvais non plus, mais de là à dire qu'il soit un mec exceptionnel. Genre, voilà, moi, des comme lui, j'en chie deux tous les matins, quoi. On va arrêter les conneries, là.
J'imagine la scène au-dessus des toilettes, en train de voilà. chier son Gargano habituel du matin.
Exactement. Et puis, alors, en plus, en face, on avait l'aspirateur à charisme qui, comment il s'appelle, le Messias Brad Baker, là, Roderick Strong.
Ah, tu sais qu'on avait, on avait une affiche de la Ring of Honor, en fait, hein, de il y a 5-6 ans en arrière, quoi. C'était, tu pouvais retrouver cette affiche Strong versus Gargano là-bas, quoi.
Ouais, mais c'est top, personne regardait. Non, mais oh. Strong, franchement, je préfère un peu plus dans le ring, Strong, parce qu'il il y a quand même quelques coups sympathiques. Bon, par contre, je trouve qu'il a vraiment pas trop de personnalité. Alors un truc marrant, je me suis posé la question, il est venu en face, en fait, Strong, finalement, dans ce match-là. Parce que quand il entre,
il
est plutôt un catch-face dans ce match-là. Il a la défaite qui le fait un peu douter. Puis ces dernières semaines, en plus, il était plus j'ai l'impression qu'il est moins en moins heel. Et tout comme ça, le reste de sa faction, de toute façon. Hein. On en parlera plus tard. Mais ouais, donc c'est le seul truc qui m'a un peu interpellé, quoi. Donc peut-être un changement de ce côté-là, ce qui serait pas mal parce que ça paraîtrait de renouveler un peu l'histoire avec le Nuspidit Era qui dure depuis très longtemps maintenant quand même. Hein.
Ah oui, bah oui. C'est une storyline au long cours, là, au très long cours même, on peut dire. Allez, on continue, on enchaîne. Derrière, on va revenir un peu chez les filles parce qu'il va y avoir une interview de Dakota Kai. Où on lui demande pourquoi elle a laissé tomber Candice LeRae au milieu du ring, pantelante. Et elle dit tout simplement qu'en fait elle en a strictement rien à faire des matchs par équipe. Ce qu'elle veut, c'est le titre, c'est prendre la championne en one-on-one et qu'elle est la challenger numéro 1, qu'il va falloir y aller, quoi. Mais à ce moment-là, en fait, elle est coupée par une revenante plus ou moins, puisqu'elle est déjà là depuis quelques épisodes, c'est Rhea Ripley. Et Rhea Ripley, elle est pas d'accord sur cette histoire de challenger numéro 1, puisque elle hésitera pas à affronter Dakota Kai, quoi, à la détruire même, comme elle dira si bien, pour prouver que c'est elle la challenger numéro 1. Donc en fait, on se retrouve avec une rivalité Ripley Dakota Kai là pour affronter Yoshirai. Derrière, ça va nous enchaîner toujours avec un match féminin. On aura eu quelques segments backstage, hein, que se passe avec Cole qui a participé à, entre autres, un podcast où ça s'est mal passé, où Triple H aura dû faire des excuses auparavant. On va avoir la Robert Stone Brand qui va venir aussi se distinguer, le Robert Stone va venir avec son nouveau poulain, qui est en l'occurrence Mercedes Martinez, qui va affronter Shotzi Blackheart pour un match de mid-card féminin, un match qui va être quand même très rapide, puisqu'il va durer 4 minutes 20. Mercedes Martinez va démolir Shotzi Blackheart, surtout quand en plus ringside elle a Robert Stone et Aliyah qui sont là et qui peuvent lui filer un coup de main de temps à autre. Mais là vraiment Shotzi Blackheart, qui est un petit peu pas mal mise en avant ces derniers temps, là va prendre quand même vraiment très cher, va se prendre une Spider German Suplex, un gros knee strike et une espèce un Air Red Crash, je crois le nom qu'a donné le commentateur. Et victoire de Mercedes Martinez. Alors Mercedes Martinez, t'as fait une impression particulière, mon bon papy?
Ah ouais, alors c'est marrant parce que tu vois, je l'ai trouvé... J'étais surpris quand t'as dit la durée du match. J'ai l'impression que c'était plus long parce que j'ai l'impression qu'elle s'est un peu trop défendue, Shotzi Blackheart, quoi. Je m'attendais vraiment à ce que Mercedes Martinez lui roule dessus en mode squash, mais elle a quand même eu quelques attaques. Il y a eu... même des moments où tu avais l'impression qu'elle était limite en difficulté, Mercedes Martinez. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Parce que,
ça a été éphémère.
Après, en trois coups, elle l'achève, quoi. Mais ouais, ça m'a. Ouais. Moi, j'aime bien quand tu as un nouveau heel qui arrive et puis qui va être puissant, qui peut battre un mec en trois coups. Ça, c'est très bien. Le finish est très bien. Par contre, il ne faut pas la faire un peu trop douter avant. Il faut que là, elle enchaîne les squats pour montrer qu'elle est vraiment forte. Là, je trouve ça un petit peu dommage. Quoi. Ça me rappelle un peu les matchs où tu as un main eventer qui affronte un jobber et puis qu'il met plus de sa mute pour l'éclater. Quoi. Non, normalement, quand t'es vraiment dessus, le mec, tu l'éclates. Quoi. Et là, je pensais vraiment qu'elle allait la bouffer tout cru. Quoi. Donc, sinon, après, voilà, c'est le finish du match était sympa. Ça la mettait bien en puissance. Voilà.
Ouais, c'est le lancement de Mercedes Martinez, c'est de la mid-card féminine, c'était rapide, il n'y avait pas grand-chose quoi, derrière. Quoi.
Et enfin, une recrue de qualité dans le Robert Sunbrand, là
sa première catcheuse vraiment qui semble vraiment dangereuse, quoi, depuis qu'il est là.
Ouais.
Voilà. Bien plus voilà. Derrière, on aura une petite vignette d'un futur nouveau venu qui s'appelle Ridge Holland, qui est un ancien joueur de rugby qui a fait une petite carrière, assez grande carrière, hein, qui jouait numéro 8. Alors, je ne peux plus vous dire le club exact au Royaume-Uni où il jouait, mais il jouait en première div. Enfin, c'était un vrai joueur professionnel de rugby. Voilà quoi, et qui est reconverti dans le catch et qui se lance dans l'aventure de la ceinture nord-américaine. Voilà, et on le verra normalement à l'œuvre pour la première fois la semaine prochaine dans un triple threat match qualificatif pour le fameux ladder match de TakeOver. Derrière, on va voir Kisly, le champion NXT, qui va venir nous déposer une petite promo et évoquer ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, pour vite vous résumer, il y a un trio en ce moment entre Dominik Dijakovic et Karrion Kross. Karrion Kross a martyrisé Dominik Dijakovic très 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 méchamment. Voilà, donc Kisly, comme il est très 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 copain avec Dominik Dijakovic, bah évidemment ça passe pas quoi. Donc il comprend pas pourquoi Kross fait ce genre de choses. C'est pas bien. Et donc lui, il aimerait bien que Karrion Kross vienne s'expliquer en face à face. Et sur le ring, quoi, qu'il invite. Et finalement, bah, sur le ring, c'est pas Karrion Kross qui va débarquer, c'est Cameron Grimes, qui est un catcheur avec une espèce de look de cow-boy ancien temps, voilà, avec un gilet en cuir, les vechelons,
gros chapeau haute forme.
Ouais, gros petit chapeau haute forme et tout ça. Voilà, et qui nous dit que bah, lui, il va venir remporter le titre nord-américain, qui va aller tout droit sur la Lune. Alors, en étant face à Kisly, je pense que ça peut être. Ça peut se faire, ça peut s'envisager. Voilà, donc Kisly, hein, il est un peu agacé, donc du coup, il va choper le Cameron Grimes, il va lui porter un choc slam des familles, et après, il va le détruire dans le coin du ring méthodiquement. Les lumières vont s'éteindre, Scarlett va apparaître, et ça aurait pu peut-être aider Grimes d'ailleurs, quoi, mais pas du tout, puisque celui-ci va se prendre une spirit bomb pour finir. Oui. Donc Cameron Grimes complètement séché au travers du ring. Et Karrion Kross arrive enfin sur le titre en tronc. Il nous dit que Lee, finalement, il n'a pas fait grand-chose pour empêcher Dijakovic de souffrir et de se faire démolir. Qu'il va donc devoir vivre avec cette culpabilité. Je pense que Kisly va survivre à ça. Kross nous dit qu'il va continuer son opération de destruction jusqu'à ce qu'il ait Lee entre les pognes. Hein. Finalement, c'est un peu ça l'idée, quoi. Et que donc, si Lee veut continuer à avoir des victimes s'amonceler autour de lui, va falloir qu'il donne un match de championnat à Karrion Kross, quoi. Et finalement, Kisly va reprendre le micro, va nous dire que il est prêt, qu'on lui donne le lieu, la date, l'horaire, et il bottera les fesses au susnommé Karrion Kross. Alors, ça, oui. Mon papy, c'est la feu de main event, c'est la feu de pour le titre suprême à NXT. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
J'ai trouvé que c'était un plutôt bon segment là pour le coup. J'en parlais juste avant avec Mercedes Martinez en disant qu'elle, je trouvais qu'elle a pris trop de temps pour éclater Chosy Blackheart. Bah là, quand Kisly là, le petit mec avec son chapeau, il l'a massacré, mais vraiment tu mets une bête blessée dans l'enclos du requin blanc quoi. Il te massacre quoi. Il y avait des bouts partout. C'était bien violent quoi, comme on l'aime dans le noblard. Et donc ouais, c'est bien. C'était même marrant le petit moment où la lumière s'éteint, où elle commence, Scarlett commence à tirer son regard, et puis t'as l'autre qui sort de l'ombre pour attaquer Kisly, qui se fait étaler direct. Ah, pour le coup, c'était plutôt bien là. Tu vois, là, on sent vraiment le bonhomme qui est bien placé. Et puis après,
Karrion Kross. Kisly, qu'est-ce que t'en penses de Kisly en fait, du catcher en lui-même là pour sortir.
Alors,
de...
je l'ai pas encore trop vu moi finalement parce que je l'ai vu juste prendre le titre et puis je sais pas si j'ai vu beaucoup de matchs de lui avant. Si j'ai vu le triple threat pour défendre sa ceinture là, North American, alors je sais plus contre qui mais bref. Et donc voilà, puis je l'avais.
T'avais aimé le match Adam Cole Kisly du coup que t'avais vu du coup pour le titre.
Je l'avais trouvé plutôt pas mal, un peu de mal. Malheureusement, Kisly, du coup, il est tellement énorme, tellement physiquement impressionnant, que du coup, j'ai du mal à croire quand il se fait malmener par un mec d'1m30 quoi, et de 60 kilos tout mouillé. Quoi.
C'est
un peu le souci avec lui. Et puis, par contre, effectivement, quand il attrape le mec et qu'il massacre, ça, c'est tout de suite pluraliste. Mais tu vois, par exemple, le match contre Dijakovic, je l'ai vu aussi. Et pour le coup, là, tu avais deux physiques qui étaient assez comparables et je l'avais trouvé plutôt pas mal, du coup, la confrontation, là. Bien sûr que je ne pensais pas qu'elle allait perdre, mais au moins, tu avais un vrai duel, quoi, un vrai face-à-face. Et je pense qu'avec Karrion Kross qui lui arrive et qui est aussi... Alors, je pense qu'il est peut-être un peu moins grand, Karrion Kross, à vérifier, mais qui aussi, dans le genre physique, je pense que ça peut faire une opposition sympathique quoi, entre les deux.
Ok.
Je sais pas, toi, voilà. Toi, t'es un grand fan de Kisly.
Ah ouais, moi j'aime beaucoup Kisly hein, depuis. Alors moi je suis comme toi, hein, c'est-à-dire que sur le match, moi Adam Cole de toute façon, moi ça m'a toujours fait un peu marrer. Enfin, ça m'a fait marrer, parfois poser un problème. Voilà cette espèce de symbiose entre Shawn Michaels et Frank Dubosc, et que effectivement, bah Adam Cole quand même, c'est là où je trouve qu'on voit ses limites, c'est quand il est face à un vrai terrible powerhouse, ce qui est le cas avec Kisly. Moi Kisly, je trouve qu'il a le total package. Hein, je l'ai déjà dit sur ses ondes. Peuple de catch-up, voilà, pour moi, c'est un gars qui a actuellement le total package, quoi, le micro, le in-ring, le côté terrifiant qui fait que, un espèce de côté indestructible en lui qui est assez incroyable. Et voilà, si le public était là, ça serait encore plus fort parce que il est vraiment, quand le public est là, c'est un gars qui a le public dans sa poche, quoi, qui gère son micro super bien. Et donc ouais non moi je suis vraiment fan hein. depuis le début je suis vraiment fan sur son adversaire Karrion Kross, moi je l'ai découvert un peu à Impact que je trouvais déjà assez impressionnant et pour l'instant je trouve que la WWE fait plutôt un sans faute sur son arrivée il a une grosse entrée accompagné avec Scarlett pour l'instant c'est cohérent, il s'est lancé direct sur le main event en arrivant voilà. Il les a posés sur la table, moi je trouve Karrion Kross quoi. Là il y a pas de voilà, il y a pas de demi-mesure avec Karrion Kross et je trouve que moi j'aime plutôt bien ça. Donc ouais, voilà. Donc effectivement il a fracassé Dijakovic.
Il a torturé la semaine dernière.
Ouais hein. Ouais
c'est
ouais.
Pour ouais, ça, il qui disait à Kisly t'es pas intervenu parce qu'en fait de mémoire t'as Pan qui il tenait Dijakovic dans une prise, je ne sais plus exactement laquelle, sur son cou, un truc comme ça, et Kisly voulait intervenir, puis Dijakovic disait non, laisse-moi finir le match, et puis il l'a fini, quoi, en fait, mais il l'a vraiment torturé pour faire un peu de torture psychologique vis-à-vis de Kisly, donc ça explique un peu l'animosité entre les deux, parce que la promo de Kisly était bien péchue, là, cette semaine.
Ouais, complètement. Enfin, j'ai envie de dire comme chaque semaine.
Après, voilà, moi, je ne connais pas encore assez.
Pour ouais, ça. Ouais, non, Kisly là-dessus, tu verras, tu vas le découvrir au micro au fur et à mesure et tu verras. Ça sera encore mieux quand il y aura du public. Si un jour le public revient, reviens, public, tu nous manques tant. Allez, on enchaîne avec la Tag Team Division, papy, ça te va?
Allons-y.
Ça va être très ravi. Ah, donc, les champions actuels, alors sans leur mentor, en l'occurrence Walter, qui semble être toujours coincé
au water.
Voilà, Imperium, les champions en titre, vont affronter dans un non-title match, hein, je vous rassure, les Ever Rise, qui est une petite équipe sympatoche, en fait, québécoise, que moi j'aime bien, mais qui ne font vraiment que jobber à la NXT et qui se prennent que des trempes. Et bah là, ça va pas manquer. Les Ever Rise vont prendre une grosse défaite, vite fait, bien fait, en 2 minutes 16, papy. Donc Imperium, les deux Européens là, l'Italien et l'Allemand, qu'est-ce que t'en penses?
Ah bah là pour le coup, je peux pas juger là. C'était
oui, tu peux pas juger sur ce match, là, c'est sûr.
Contre une équipe avec ses limites du Comedy Wrestling, j'ai l'impression qu'ils font nos deux Québécois là. Donc ou alors du moins c'est ce qu'ils font à NXT, parce que la semaine dernière ils étaient contre Brisango. Donc cette semaine effectivement en 2 minutes c'était bâché, c'est pas. Ouais c'est compliqué de juger Imperium quoi. Mais bon la suite du segment me fait confirme peut-être une idée que j'ai eue tout à l'heure.
C'est-à-dire
bah, c'est-à-dire qu'il y a une intervention après derrière, non?
Oui, tu parles quand ils ont pris le micro après derrière, quoi. Qui nous rappelle qu'ils sont l'équipe la plus dominante de NXT, quoi. Mais qui vont être, voilà, comme tu l'avais spoilé presque.
Non, j'ai rien dit.
Ils sont directement, oui, t'as rien dit. Ils sont directement coupés par l'Undisputed Era, en fait, qui va foncer sur Bartel et Eichner. Et ils vont se calmer les nerfs, on peut dire ça comme ça.
Ouais, voilà. Voilà. Un petit peu.
Donc là, on nous relance en fait une storyline sur le Tag Team Championship avec le retour des Undisputed Era, tout simplement.
Voilà. Et du coup, bah, pour le coup, c'est effectivement une nouvelle fois il contre il, mais bon, l'Undisputed Era, là, j'ai l'impression qu'il bascule vraiment, là, hein, surtout avec le soutien du public. Alors, le public est programmé pour les soutenir, donc si je pense qu'on les programme pour les soutenir, c'est qu'il y a une raison, quoi.
Ouais. Et puis il y a eu en plus O'Reilly a été absent longtemps avec les histoires de confinement, etc. Donc ils ont beaucoup tourné à trois là ces derniers mois avec Fish, Strong et Cole. Là du coup Cole a perdu le titre, Strong est lancé sur une espèce de mini feu je pense avec Gargano et voilà et c'est le retour des Red Dragon qui voilà pour la Tag Team Championship, ça va donner des bons matchs hein, moi je pense parce que moi j'aime bien les deux Européens pour le coup Donc, j'aime bien, de toute façon, la team d'Imperium, là, quand Walter sera de retour, ça sera sympa aussi, je pense. Et je trouve que c'est une bonne chose pour, tu vois, pour faire bosser, justement, Eichner et Bartel, qu'ils aient le titre, qu'ils aient un règne et que, tu vois, pour les faire progresser, je trouve que c'est une chose assez positive.
Ah oui, là, ils sont implantés. En plus, ils sont sortis de NXT UK pour être, entre guillemets, au vrai NXT. Là, effectivement, c'est fait bien bosser dans la lumière, quoi.
Surtout que la Tag Team Division à NXT, elle est quand même un peu faiblarde en termes de quantitatif. Le roster est pas très, très, très énorme. Hein. Il y a la team avec les deux Indiens énormes, mais il y en a un qui a fait une grosse connerie sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Donc, du coup, ils ont été privés d'antenne cette semaine. Voilà, et autour, il y a les Brisango qu'on fait quelques shots là ces derniers temps. Mais c'est vrai que la Tag Team Division à NXT, c'est pas ce que ça a pu être, on va dire, il y a 1, 2 ou 3 ans en arrière, quoi. Voilà, elle est un peu moins active, un peu moins brillante, j'ai envie de dire. Voilà, bah, on la quitte là-dessus. Derrière, on aura un petit passage avec William Regal, qui est chez lui, hein, qui lui, c'est le general manager qui gère de chez lui et il le fait bien. Voilà, et il nous annonce que bah, Karrion Kross, pour avoir un match de championnat, bah ok, mais il est à NXT, donc il va falloir qu'il fasse ses preuves. Et qu'il le mérite, ces matchs de championnat. J'ai trouvé ça très bien, d'ailleurs. Quoi. Ça manque à Raw et à SmackDown. Voilà, donc le General Manager, il arrive, il les pose sur la table et il rappelle un peu les choses. Quoi. Donc, je pense que Karrion Kross va avoir droit à un ou deux matchs en suivant derrière. Quoi. Peut-être, on aura peut-être même droit à un number one contender match pour véritablement officialiser le futur adversaire de Kisley. Et pourquoi pas. Derrière, on va avoir encore une petite vignette concernant Santos Escobar, le champion des poids moyens à l'heure actuelle, ex King Cuerno, ex Hero del Fantasma. Voilà, mais qui va nous annoncer un match pour la semaine d'après finalement, et on saura même pas d'ailleurs si le match c'est un match pour désigner officiellement le challenger numéro 1. Bref, derrière, on continue avec de la mid-card et toujours avec du cruiserweight, j'ai envie de dire, puisqu'on va avoir un match Isaiah Swerve Scott face à Jack Atlas. Alors, qui eux aussi ont pas mal de vues ces derniers temps, hein, qu'on voit régulièrement les mercredis en ce moment. Ils vont avoir un match quand même assez court. Ils vont avoir un match de 6 minutes 24, hein, qui va être relativement équilibré. Voilà, ils vont nous poser quelques prises spectaculaires, qui est un beau springboard blockbuster entre autres. Jack Atlas, il passe un espèce de truc aussi qui ressemble à. Alors c'est DVD, ah oui, Death Valley Driver, le DVD, je cherchais DVD, tu vois, Death Valley Driver de Jack Atlas depuis la deuxième corde, que j'ai trouvé assez spectaculaire. Ils vont beaucoup se contrer finalement, comme c'est des gabarits assez, assez proches, et même limite petite ambiance lucha libre par moment, là, sur les deux petites dernières minutes de combat. Mais finalement, Isaiah Swerve Scott va remporter le match avec un house call à l'extérieur du ring d'abord, pour renvoyer Atlas, puis un JML Driver, et victoire d'Isaiah Scott. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce combat mid-card cruiserweight?
Ouais, c'est vraiment de la cruiserweight. Ça me rappelle un peu quand à l'époque où tu avais la sur cruiserweight qui était à Raw et puis tu avais les petites lumières violettes et puis tu avais les mecs de la division cruiserweight qui venaient faire leur match et puis qui repartaient. C'est spectaculaire. Les mecs, sincèrement, je serais incapable de leur dire leur personnalité à chacun. Ils sont limite interchangeables en termes de personnages. Hormis le champion qui notre ami
Santos Escobar,
voilà, je trouvais plus le nom, je sais que c'est un nom de mafieux mais je trouvais plus lequel. Sinon ouais, non, sur le match sympathique, moi j'ai bien aimé, tu vois, sur ce match là j'ai préféré Jack Atlas, tu vois. D'ailleurs, Swerve Scott, j'ai pas encore trop d'affinité avec lui. Il me semble que c'était lui qui était contre Gargano il y a une ou deux semaines.
Oui
et déjà j'ai pas trop aimé le match là, et bon, c'est peut-être parce qu'il y a Gargano, mais
alors, Isaiah Swerve Scott, je sais pas si tu le connaissais d'avant.
Non, pas du tout.
Pas du tout, d'accord, ok. Ouais. Tu suivais la lucha underground, papy?
Non, jamais regardé. Non,
jamais, d'accord, ok. Bah, c'était un ancien de là-bas, quoi. Oui.
Quand lui aussi. Ok,
je catchais, ouais, il catchait comme ça. Il catchait sous le nom de Killer Cross et Killer Shot. Non, c'était quoi son nom déjà? Ah non, c'était Killshot, pardon, Killshot.
Killshot, d'accord.
Et voilà, ouais. Bah écoute, il a fait partie de, il a été pas mal dans la course, hein, pour le titre cruiserweight, et puis là, bah là, il est un peu retiré, un peu, voilà, il est placé en mid-card, voilà, Atlas et Scott, je pense que de toute façon, c'est de la mid-card de NXT, hein, voilà, c'est comme ça, il en faut. Voilà, donc ça, c'était notre prélude avant le main event. On aura encore deux, trois petites vignettes, dont une avec Damian Priest, qui va nous apprendre qu'il va donc participer au triple threat match qualificatif pour le ladder match de NXT TakeOver. la semaine prochaine. Donc, il va affronter l'ancien pro de rugby, Ridge Holland, et Onel Orcan. Voilà. Donc, ça sera le triple threat de la semaine prochaine. On va nous affronter aussi que Rhea Ripley et Dakota Kai. Finalement, vont bien s'affronter la semaine prochaine. William Regal, il bosse. Vont bien s'affronter la semaine prochaine et que la gagnante aura donc, ce sera donc un number one contender match pour le titre contre Yoshirai à NXT TakeOver 30, puisque c'est la 30e édition, hein, déjà, hein, ça passe vite les amis, le temps, hein, 30e édition de TakeOver, donc on va avoir la semaine prochaine un programme qui s'annonce plutôt sympa, et enfin la semaine prochaine on va aussi avoir un Undisputed Era versus Imperium, donc, pour la ceinture, donc je pense que ça s'annonce vraisemblablement comme le main event de la semaine prochaine, mais ça n'a pas été encore bien explicité. Mais voilà, à NXT, hein, de toute façon, c'est une récurrente, hein, tous les mercredis, ils nous font en général une programmation pour la semaine qui suit. Hein. C'est très 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 souvent que le mercredi, les matchs pour la semaine d'après sont annoncés, ce que pratique, on a pu le constater ensemble, Papy, ce que pratique Raw et SmackDown depuis quelques semaines aussi dorénavant.
Et ils s'y mettent aussi pour essayer de remonter les audiences, j'ai l'impression.
Ouais. On book à l'avance, une semaine à l'avance, pour essayer un peu de donner des affiches alléchantes au public de catch, à vous les Smarks, à vous les Marts. voilà, est-ce que ça marche? Pour l'instant, c'est pas le cas, puisque en tout cas, NXT a été encore battu là par Dynamite, comme je vous l'ai dit en début d'émission.
Il remonte un peu, je crois, c'est...
Mais ça remonte un petit peu, ouais. C'est un peu mieux, ouais. Ben voilà, écoute, on est à notre main event de NXT, hein, parce qu'on a
quand même,
on a deux shows à reviewer pour cette baston, et on arrive à la fin du premier. Donc on va avoir un match qualificatif pour le ladder match de TakeOver 30, qui va voir s'affronter Dexter Lumis, Finn Balor et Timothy Thatcher, l'anglais. Mm. Donc on a un match Amérique versus Irlande versus Angleterre. Alors moi, je vais commencer comme ça, juste en disant que pour moi, j'aime beaucoup Dexter Lumis, mais que le favori du match, pour moi, c'était quasiment naturellement Finn Balor. Voilà, je vais dire ça comme ça. On va avoir un match de 12 minutes 17, donc pour un main event d'une longueur moyenne, on va dire. Et j'ai été assez surpris finalement par le déroulé du match, quoi. Avec un Dexter Lumis, mais vraiment chaud, quoi, qui va nous tenter du tomber suicidaire dans tous les sens sur Finn Balor et sur Timothy Thatcher, quoi. Il va garder l'avantage jusqu'à la dernière pause publicitaire. Hein. Ça sera vraiment lui qui va être au centre. J'ai même trouvé Balor assez effacé par moment. Moi, c'était mon sentiment à moi, quoi. Celui qui va plutôt être plus actif finalement, c'est Timothy Thatcher, quoi, qui va tenter de se débarrasser de Lumis, voyant celui-ci prenait trop le truc, quoi. Il va s'en prendre à Baylor pour tenter les tombées. Lumis va revenir, va reprendre la main avec son gros spinebuster que j'aime beaucoup, quoi, et sur Thatcher, mais il va pas réussir. Finalement, notre ancien champion universel, quand même, mine de rien, va réussir à poser un coup de grâce. Thatcher va stopper le compte de l'arbitre juste à temps et va tenter une ankle lock sur Baylor dans la foulée. Vicieux, le Thatcher, hein, vicieux, hein. Mais Lumis va revenir, va exécuter son silence sur Thatcher, Thatcher va tomber dans les pommes. C'est décision de l'arbitre, en fait, c'est même pas, il tape pas, quoi, c'est pas un tap out. Et ça donne la victoire à Dexter Lumis. Donc c'est Dexter Lumis qui célèbre sa victoire à la fin, quoi, et qui va se rapprocher de la ceinture nord-américaine qui est sur la rampe d'accès au ring là pour monter la sauce. Alors, Papy, ce main event de NXT, qu'est-ce qu'on a pensé, et cette victoire de Dexter Lumis?
Ouais, c'est, alors, je trouve que c'est une sacrée affiche, mais de manière générale, les deux premières qualifications là pour le match à ceinture nord-américaine, je les trouve des grosses affiches, parce que la semaine dernière, on avait eu Gargano donc versus Strong versus
celui qui a gagné. Bronson Reed,
voilà, exactement. Donc le petit jeune qui s'impose à son rythme, qui a fait un sacré match aussi durant ce triple threat. Et là, cette semaine, j'ai l'impression qu'on avait trois mecs qui étaient capuches en ce moment, entre Dexter Lumis qui a tourné tout autour du main event le temps que c'était l'Undisputed Era, et notamment Velvet Dream qui se bat pour la ceinture. Notre ami Finn Balor, qui, c'est un ex-mec du ressort principal, donc qui est naturellement main eventer, je pense, du côté de NXT. Et l'anglais, là, truc machin. Celui qui fait une prise de soumission, qui avait battu quand même ça y est, j'oublie les noms, le mec qui est parti qui était monté
Riddle. À la
canne, là,
Madridol,
voilà, exactement, Et enfin bref, les trois pour moi étaient plutôt puissants en ce moment. Et donc les voir s'affronter dans un match qualificatif, moi j'aurais plus vu directement dans la fiche finale du match. Mais bon, c'est pas plus mal. Finalement, ça laisse des surprises. Et puis là, du coup, bah, moi j'avais vraiment aucune idée qui allait gagner parce que j'aurais bien vu les trois se retrouver à takeover. Et ouais, c'est plutôt spectaculaire en plus entre la soumission, le Dexter Lumis qui est vraiment massif mais qui en même temps est assez souple, j'ai l'impression.
Ouais.
Belor, effectivement, qui est un peu moins en vue, mais bon, il a surtout servi à faire briller les deux autres, j'ai l'impression. Hein.
Ouais, non, mais Dexter Lumis, je trouve que c'est un catcheur super intéressant, quoi. Il a un physique, il a une gimmick très particulière, et moi je trouve que ça passe plutôt bien. J'étais quand même surpris, moi je reconnais que j'étais surpris de la défaite de Finn Belor. Je m'attendais vraiment à le voir vainqueur là sur ce match. Je pensais que voilà, Thatcher était vraiment là pour prendre le pin de Baylor, en fait, finalement, pour protéger Dexter Lumis. Et bah non, pas du tout, quoi. Donc, voilà, qualifié pour ce ladder match. On a déjà Bronson Reed et Dexter Lumis, sachant qu'on va avoir un Priest Holland. Troisième, c'est qui? C'est
Oliver Kahn. Ouais, celui-là, il est un peu moins.
Celui-là,
c'est un qualificatif un peu plus faible, je pense que normalement, il va bouffer.
Damien Priest paraît le favori logique de ce truc-là. Tout dépend comment ils vont nous vendre Holland. Mais oui. Voilà, ça va dépendre aussi de ça. Mais voilà. Alors après, combien il va y avoir de catcheurs dans ce ladder match, c'est un petit peu encore obscur puisque
à 5
ça serait parti pour 5. Donc il pourrait se passer qu'il pourrait y avoir un autre triple threat pour une espèce de place de sauvetage, si tu veux, quoi, pour repêcher un gars finalement. Donc on verra, ça va être bien, mais en tout cas voilà, déjà ça commence bien, ça commence plutôt pas mal. Voilà, ainsi se termine ce NXT du 29 juillet 2020. C'était donc notre event. Donc peuple de catch-up, prenez votre télécommande. On va passer du USA Network au TNT Network. Et mon cher papy, bah de ce pas, on va rejoindre Dynamite et la All Elite Wrestling. Alors. Vas-y. Allons-y pour la All Elite Wrestling. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas parlé un peu d'autre chose que de la WWE, donc on va revenir vers la ligue concurrente du mercredi, celle qui impose ses bastons du mercredi. Et où il se passe pas mal de choses ces derniers temps. Il y aura eu, ils auront fait un peu comme avait fait NXT avec Great American Bash. Ils ont fait aussi une forme de pay-per-view de Fighter Fest en deux journées. Nos amis de la All Elite Wrestling. Alors pour vous recoller un peu le tableau, à la All Elite Wrestling, il y a une grosse tag team division, il y a plusieurs clans qui sont installés tout au long du show. Vous allez avoir les Jurassic Express, vous allez avoir l'Inner Circle, vous allez avoir le Dark Order, vous allez avoir The Elite. Voilà, il s'avère que sur la All Elite Wrestling, on va dire sur les weekly, ça fonctionne avec plusieurs clans comme ça qui interagissent et qui s'affrontent les uns avec les autres. Au niveau des champions, le champion, voilà, je recadre tout d'entrée, hein, mon papy, hein, même pour toi, à la rigueur. Cody est donc le champion de TNT. Si, dans mes souvenirs profonds des cahiers du catch, mon bon papy, tu étais, je crois, un aficionado de Cody quand même.
Ah oui, moi, je l'aime bien, le fiston de Dustin, Dusty plutôt. Oui, j'avais toujours bien aimé. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il trouvait toujours le moyen de sublimer un peu les qu'on lui donnait à bouffer et pas si maladroit que ça dans le ring. Donc, moi, j'ai toujours bien aimé Cody.
Et c'était un mid quart d'heure à la WWE sans faire offense.
Ouais, même mid de temps en temps up mid card, mais jamais main eventer à mon plus grand.
Voilà. Donc Cody est le champion TNT. Voilà, quel champion de le champion télévision en fait, si vous voulez, comme on faisait un petit peu dans le temps. Voilà, chez les femmes, c'est une japonaise qui détient le titre aussi, puisque c'est Hikaru Shida qui a pris le titre à Nyla Rose il n'y a pas très longtemps de ça. Son règne date de pas si longtemps que ça, Hikaru Shida. Du côté de la Tag Team Championship, c'est Kenny Omega et Hangman Page, qui est une tag team un peu dysfonctionnelle, mais qui sont champions tout de même. Et eux, alors par contre, pour le coup, ça commence à dater d'un bon moment. Eux, ils commencent à avoir un règne assez significatif, les deux. Voilà, l'alcoolique Adam Page avec le vertueux Omega. Et puis, bah, du côté du titre number one, quoi, hein, voilà, le titre suprême de la All Elite Wrestling, il est détenu par John Moxley. Et voilà, ancien WWE, Dean Ambrose, voilà, qui est champion depuis lui aussi, là, qui commence à être sur un règne au long cours. Voilà, je vous ai un peu planté le décor de la All Elite Wrestling. Maintenant, on va passer au champ lui-même. on a un opener qui va nous voir affronter justement les fameux clans dont je parlais au départ, puisqu'on va avoir l'Inner Circle dans le ring avec Chris Jericho, Jack Hager, Sammy Guevara, Ortiz and Santana, puisqu'on va avoir un 10-man tag team, qui vont affronter Orange Cassidy, les Best Friends Trent et Chuck Taylor, et le Jurassic Express avec Jungle Boy et le Chazarus, bien sûr, bien sûr. Alors, voilà. Donc, gros match tag team. J'ai un peu à l'ancienne, un petit peu à la japonaise, un peu dans les pay-per-view de shows japonais. On aime bien commencer avec des gros matchs tag team avec 8, 10, 12 catchers. Donc là, ça va être le cas. Ça va être un match de 12 minutes. Voilà, avec un Jericho particulièrement énervé parce que Chris Jericho, en ce moment, il est dans une feud avec Orange Cassidy parce que Orange Cassidy l'énerve au plus haut point. Il a eu le malheur, entre autres, d'arroser la veste à, je sais plus, à 7 000 $, je crois, de Chris Jericho il y a 2-3 semaines de ça. Et ça, c'est vraiment pas passé auprès de Chris Jericho. Et donc, depuis, c'est la guerre. Donc, comme quoi, hein, vous voyez, avec juste un simple jus d'orange, le catch, ça suffit pour développer une storyline, quoi. Donc voilà, donc on va avoir un match, assez spectaculaire, assez intense quand vous avez 10 mecs dans le ring, quoi. Les tags s'enchaînent. Voilà, le Luchasaurus. Alors là, voilà, une de mes bonnes surprises de cet opener, ça va être que le Luchasaurus va nous être vendu très fort tout au long du combat, et en particulier dans les phases où il va être face à Jack Hager, qui est l'ancien Jack Swagger, qui est le powerhouse de la Team Inner Circle, et ça va chauffer grave, quoi. On va avoir aussi une petite intervention de Matt Hardy qui va venir mettre la pression à Guevara, qui va pourtant tenter de neutraliser le Luchasaurus, mais dans le dos de l'arbitre, notre ami Matt Hardy va faire tomber Guevara. Le Luchasaurus va en profiter pour porter son choc slam habituel et surtout son roundhouse head kick magnifique, voilà, je n'ai que ça à dire, magnifique, pour la victoire des Faces. Et donc c'est une victoire de la team Jurassic Park, Best Friends, Orange Cassidy, qui gagne et qui ouvre ce show. Mon papy, qu'as-tu pensé de cet opener?
Ah oui, alors désolé, je vais certainement utiliser de t'entendre des noms WWE ou alors plus souvenir des
c'est
noms.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Et vous étonnez pas, j'essaierai de faire mon mieux. Alors, moi, c'est la première fois que je regardais les IW. Enfin, j'avais déjà regardé un bout d'épisode la semaine dernière, mais là, c'est la première fois que je regardais un entier.
Ça, c'est intéressant, on va pouvoir avoir un œil neuf.
Exactement, donc je découvre un peu tout ce beau monde. Alors, un truc qui m'a perturbé, je raconte un peu ma vie, mais ma version de l'épisode, j'avais des moments, je pense que ça correspond à des pubs ou je sais pas quoi, qui n'étaient pas commentés.
Ah oui, c'est ça.
Et alors, sincèrement, je l'en ai eu pendant tout l'épisode, au bout d'un moment, je l'ai zappé parce que je trouve ça horrible en fait quand c'est pas commenté. Parce que sans public et sans commentaire, alors là, le catch, pour faire plus faux, je pense que tu peux pas. C'est affreux.
Mais bon, ouais, c'est difficile. Ouais.
Ma petite note, mais je pense que dans une version normale, t'as peut-être les pubs qui cachent et donc du coup, tu te rends pas compte. Et donc voilà, donc c'est une petite parenthèse à ce sujet-là. Au niveau de l'in-ring, Orange Cassidy avec son style un peu à la cool, les mains dans les poches, tout ça. Je pense que si tu connais le personnage, ça va être intéressant, mais sinon, j'ai trouvé que c'est pas très crédible en fait quand t'as Jacques Hager. Voilà, je commence. Il l'attrape et qui lui fait faire des prises alors que l'autre il garde les mains dans les poches. Normalement, il aurait fait une clothesline, c'était réglé, quoi. Mais non, bon, bah, c'était, je pense, un petit peu de comédie pour démarrer le match doucement. Le Luchasaurus, effectivement, je connaissais juste la photo avec son masque, j'ai jamais vu catcher. Et là, je me suis rendu compte qu'il est assez grand comme mec, il est mastoc.
Ah, mais oui,
c'est une belle bête, là. C'est une belle bête, effectivement.
On parle de bestiasse, là, c'est une belle bestiasse.
Voilà, une belle bestiasse, un beau dinosaure qui effectivement, a plutôt brillé dans le match. Alors, je vais pas dire tout de suite mon avis sur Luchasaurus, je vais juste faire une petite parenthèse encore. Il y avait un espèce d'enfant ou de nain qui s'amusait à se balancer sur les autres. J'ai pas bien compris ce qui c'était celui-là.
Est-ce qu'il y avait Marco Stunt. T'as découvert Marco Stunt. Marco Stunt, il fait partie de la team Jurassic Express. Donc, c'est un poteau du Luchasaurus et de Jungle Ball.
Et il fait quoi dans la vie, ce garçon? Il est catcheur?
Il est catcheur suicidaire, en fait. Son métier, en fait, à lui, c'est de prendre des cartouches par tout ce qu'il y a de plus monstrueux dans le roster de la WWE. Comme tu as pu le constater déjà un peu pendant cet opener, il est complètement allumé. Il s'attaque à tout ce qui bouge. Et c'est un gabarit, effectivement, de crevettes de Thaïlande, quoi.
Ah oui, là, c'est très, il est très, très petit.
Je te confirme.
Au début, de loin, je croyais qu'il allait ramener son fils, le gars. Je disais, tiens, il a ramené son fils avec lui.
Ouais.
Et après, vu de près, je suis, ah non, il est un peu vieux pour être son fils. Mais bon, bref, pour revenir du coup au match, je te remercie pour la précision, je comprends un peu mieux maintenant. La victoire convaincante du Luchasaurus russe, mais par contre, j'ai pas aimé la façon dont ils l'ont vendu, en fait. Parce que sitôt qu'il a gagné, hop, ils ont braqué la caméra sur Hardy et sur Guevara.
Ah oui.
Ça. Ouais. Et ils sont jamais revenus sur Luchasaurus qui venait de faire une belle victoire, en fait. J'ai trouvé qu'ils l'ont pas du tout vendu au niveau de la réalisation, en fait. Ils sont directement passés sur, bon, limite, on s'en fout qui a gagné. L'important, c'est la rivalité entre Matt Hardy et Guevara. Donc, j'ai pas trop aimé, en fait, ça. J'aurais préféré vraiment qu'il focalise sur le mec qui venait de faire une belle perf. Mais bon, voilà, c'est mon avis.
Le Luchasaurus, il a du coup, en plus, si tu veux, il gagne pas beaucoup. Et en fait, surtout, il perd surtout dans des matchs de tag team où il n'est jamais piné, puisque je crois qu'il n'a encore jamais été piné depuis le début de sa carrière. On était au numéro 43, c'était le 43e Dynamite, mes amis.
D'accord.
Et voilà. Et donc là, pour une fois qu'il gagne un match clean, nickel et tout, comme tu dis, bah moi, effectivement, j'étais super content et j'attendais un peu de célébration et un peu de monter la sauce. Et puis, bah non, effectivement, comme tu l'as dit, pas du tout. Le truc, ça a été le focus sur Matt Hardy, malheureusement. Donc, effectivement, ça a un peu gâché, en tout cas pour les fans du Luchasaurus, ça a un peu gâché cette victoire. Alors, pour ta petite information, oui, je te confirme que le Luchasaurus est un beau colosse, puisque ce garçon fait 1m97 et 122 kilos.
Ah ouais, ça c'est du bébé comme on l'aime.
Ça, c'est, voilà, ça, c'est du beau poulet, gars. Voilà. On est bien nourri au poulet OGM américain. Comme voilà. Allez, on quitte l'opener de ce Dynamite. On va avoir au passage une petite vignette, hein, parce que ça marche pareil que NXT, pareil qu'Aro, pareil à SmackDown, hein, de toute façon. Donc, on va avoir droit à nos vignettes aussi avec ce coup-ci, hein, John Moxley énervé, parce que lui, il est en pleine feud avec Brian Cage en ce moment, qui s'en attaque lui-même aussi à Darby Allin, qui est un wrestler skater un peu taré, un peu dangereux parfois. Et qui fait la moitié de la taille de Brian Cage.
Ouais.
Voilà, donc Moxley, voilà, est en pleine feud. Ils vont s'affronter très bientôt pour le titre. Voilà, Moxley va juste nous conclure cette affaire en nous expliquant que lui, il ne commence pas les rivalités, mais il les finit.
Ouais. Voilà.
Et Taz, qui est en commentaire ce soir, Taz est pour ton info, je savais pas si tu savais trop, mais en fait Taz et normalement c'est Excalibur qui était à sa place, mais Taz, le commentateur du soir, est le manager en fait.
Ouais, de Brian Cage. Ça.
Ouais, t'avais vu ce truc là, ouais. Ok, ouais. Ouais, ouais, voilà.
Donc, Moxley, tu vois, j'avais lu comme quoi il se plaignait un peu de quand il était à WWE, il n'y avait pas la possibilité de faire des promos à sa sauce et que là.
Ouais.
Et tout ça. Sincèrement, sa promo du soir, je vois pas ce qui change par rapport à ce qu'il faisait avant. Hein.
Ah non, il n'y a pas de différence fondamentale.
Ouais. Le pauvre John Moxley, il y a peut-être l'impression dans sa tête que c'est différent parce qu'on lui a pas donné le thème à de ce qu'il avait raconté, mais j'ai pas vraiment vu de différence. Hein. C'était pas mauvais non plus, mais je n'ai pas trouvé de grande différence par rapport à son travail d'avant, j'avouerais.
Ouais, voilà. Bon, bah, écoute...
Désolé, John.
Ah bah. C'est comme ça, John. Voilà, c'est la sentence de papy est tombée.
Je ne suis pas de cadeau.
Et elle est irrévocable. Alors, on suit avec le deuxième match de la soirée à la All Elite Wrestling qui va être, comme tous les mercredis, l'Open Challenge du TNT Championship détenu par Cody qui, toutes les semaines, depuis qu'il a été couronné face à Lance Archer, a dépendu toutes les semaines. Et une des particularités, c'est qu'il affronte quasiment presque toutes les semaines en ce moment, des personnages et catcheurs du monde indie. Et donc la semaine dernière, on avait eu un Eddie Kingston, que moi je ne connaissais pas véritablement personnellement.
C'est gros.
Assez gras, ouais, ouais. Pas vraiment en shape, l'ami Eddie Kingston. Alors là, pour le coup, il va cette semaine, il va affronter War Horse, qui est lui aussi donc un catcheur de l'indie, qui a sa petite réputation, hein, on va dire ça comme ça. Et voilà, Cody accompagné de Arn Anderson dans un match qui va durer 10 minutes 32 où comme dans tous les matchs de l'Open Challenge, j'ai envie de dire, eh ben, l'adversaire va un peu se mettre en valeur, va avoir pas mal d'offensives, va tenter quelques trucs, va avoir le droit à quelques near falls aussi. Voilà, Cody, il est toujours un peu plus ou moins mis en difficulté parce que de toute façon son gabarit fait que c'est pas le mec où on se dit, ah, c'est impossible de le renverser, quoi. C'est pas un Lance Archer, c'est pas un Brody Lee, c'est pas quelque chose comme ça. Donc il y a de la compète dans ces matchs en général. Et depuis le début, je trouve que c'est plutôt pas mal. Son système d'Open Challenge est plutôt bien foutu, même si pour l'instant ça manque quand même d'un vrai danger. Mais bon, on en reparlera par la suite, quoi. Voilà. Et en fait, au final, Cody, il a surtout essayé de terminer ce match en voulant absolument imposer un figure four. Je sais pas pourquoi il avait décidé de passer un figure four leg, quoi. C'était son deux. Il était obnubilé par ça sur ce match, quoi. Et c'est finalement sur cette prise qu'il va parvenir à faire abandonner son adversaire du soir. Derrière, en post-match, Cody va vouloir serrer la main de War Horse. Mais au moment où il va faire ça, bah, il y a le Dark Order, qui est donc un des gros, gros clans dirigés par Brody Lee, ex Luke Harper, qui va venir s'attaquer à Cody. Alors, et en fait, même à War Horse, finalement, ils attaquent les deux, on ne sait pas trop pourquoi. Les Hills vont finalement faire mine de vouloir s'attaquer au Hall of Famer Anderson. Pardon. Et au moment où il va y avoir cette scène-là, on a un mec qui s'appelle Matt Cardona, qui va débarquer pour venir faire le sauvetage et sauver la mise à Cody, à War Horse, à Anderson. Bref, le héros, le champion, sorti de Out of Nowhere. Mais qui est donc ce Matt Cardona ?
Long Island.
As-tu reconnu cet homme ?
Mais oui, c'est l'homme de Long Island.
C'était Mr. Woo 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 ?
Mais oui, enfin, en très musclé, hein.
C'était Zack Ryder. Et oui, peuple le catch-up, Zack Ryder vient de faire ses débuts à la All Elite Wrestling. Et alors, il est passé à la salle de gym, papy. Hein.
Eh oui, il a mangé des protéines et il a fait de la muscu, là, ça se sent.
La vache ! Ah, mais moi, j'ai été... j'avoue que moi, j'ai été quand même... Même dans son plus grand move à la WWE, ou dans son plus grand run, je crois que je l'avais jamais vu aussi mastoc.
Ouais, il a toujours été assez musclé, mais là, il était large. T'as l'impression qu'il a...
Ouais,
qu'il
a pris de la masse.
Qu'il a vraiment pris de la masse. À la fin, il se retrouve côte à côte avec Cody. Tu sentais la différence. Et pourtant, Cody aussi ouais. A pris de la masse ces dernières années. Mais ouais. Là, il est vraiment large. Hein.
Bon, alors, cet Open Challenge de Cody, tout ça, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Ah, je suis pas. J'ai entendu que t'étais plutôt des Open Challenge de Cody parce qu'il y a des nouveautés, que ça dure un peu. Bah, moi, juste. Enfin, je suis jamais trop fan quand t'as des mecs qui sortent de nulle part et puis qui arrivent à tenir 10 minutes contre un champion, en fait. Ça me perturbe toujours un peu.
Ouais, mais Cody c'est pas un catcheur à faire des squash, quoi.
C'est pas. Bah, je sais pas. J'ai toujours la. Ouais, après, c'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être aussi parce que c'est ma vision un peu déformée de la WWE. Tout ce qui n'est pas WWE est forcément squatché dès que ça arrive dans la fédération suprême. Mais là, du coup, alors le mec qui vient un peu nulle part, je trouve que c'est en fait, surtout, tu vois, c'est que la deuxième fois que je regarde un Open Challenge, parce que pour le coup, j'avais vu le match contre Eddie Kingston, et j'ai l'impression que c'est un peu tout le même schéma, en fait. C'est-à-dire que le nouveau arrive, il résiste, il déroule tout ce qui s'est déroulé, voilà, il fait sa pub. Et à la fin de sa pub, il perd. Voilà, donc c'est pas le genre de truc qui me donne envie de regarder la suite. Tu vois. J'espère plus un segment un peu plus travaillé. Comme tu dis, une véritable opposition pour Cody, un véritable mec qui a changé sa ceinture. Quoi. Là, c'est bah, le Dark, enfin non, comment il s'appelle ? War Horse,
War Horse.
War voilà. Horse. J'ai pas. Il a fait sa pub, mais voilà quoi, il vient, il repart et puis sans plus quoi.
D'accord. Moi je t'avoue que moi je suis plus enthousiaste par ça. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est bien. Il fait venir des jeunes de l'indie comme ça. Il leur donne une chance qui bon. Alors effectivement ça peut paraître un peu dérisoire hein, sur un certain aspect. Mais moi pour moi Cody c'est pas un catcheur à faire des squash. Je trouve que ça passerait pas. Enfin auprès de moi en tout cas ça passerait pas si je le voyais démolir ces mecs en deux minutes. Donc comme les mecs sont toujours quand même un petit peu vendus, ont droit à un package vidéo, ont droit des fois à une petite promo, ça avait été un peu donc c'est plutôt pas mal. Là moi finalement tu vois, parce que moi comme du coup je suis régulièrement, je suis tous les mercredis, je vois Dynamite, et moi ce qui m'a surpris dans cette histoire, moi c'est plutôt l'arrivée du groupe Hill, l'arrivée des Dark Order. Je comprenais pas trop ce qu'ils venaient foutre dans une histoire du TNT Championship où pour l'instant ils ont jamais fait aucune apparition, il s'est jamais rien passé vis-à-vis du TNT Championship avec le Dark Order. Donc bon, c'était un peu ça, c'était.
Mais Cody vraiment... est pas dans un clan lui. Il est
non, non, Cody il est pas vrai. Ah, il est dans plus ou moins dans un espèce de clan où il y a Keith Marshall, il y a son frère Goldust, enfin plus Goldust maintenant, The Natural Dusty Rhodes. Et tu vois, c'est pas. Alors voilà, c'est un espèce de clan où il y a évidemment Brandy Rhodes et il y a Arn Anderson. Mais eux, si tu veux, eux, ils font partie. C'est pas tellement. J'ai presque envie de te dire que c'est l'authority, quoi, tu vois, quoi, au sein de l'Elite Wrestling, plus qu'un clan en lui-même, quoi. Donc voilà. Et à la rigueur, Cody, on pourrait presque dire qu'il fait partie plutôt de The Elite, quoi, tu vois, de Kenny Omega, les Bucks et tout ça, quoi. Mais bon, c'est... Voilà, Cody, il a un rôle, un peu c'est le vice-président de la Fédé, tu vois. Quand même, c'est quand même le vice-patron, le mec, quoi. Donc,
Mais c'est parce que je me demandais s'il faisait partie de l'élite, vu que dans la suite du programme, alors c'est pas spoiler, parce que je pense que c'est annoncé dès le début, il était prévu un match de défense de ceinture, je crois, entre justement des élites et Dark Order. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était lié à ça, moi. Mais non, c'est pas.
Non, forcément lié. C'était pas là, pour le coup, c'était pas lié dans ce segment-là.
D'accord, ok.
C'était pas lié. Voilà. Donc voilà, donc on revient, on va revenir, on va avoir un petit truc pour un petit promo pour nous rappeler qu'il y a donc le prochain pay-per-view de la All Elite Wrestling, c'est le 5 septembre, ça sera le All Out. Voilà. Derrière, on va avoir les Inner Circle qui va être de retour, donc la team Chris Jericho qui va être de retour sur le ring en étant bien énervé. Ils veulent mettre les choses au clair. Ils traitent Matt Hardy de gros tas suite à son intervention dans l'opener. Guevara, il en a pas fini avec Matt Hardy, visiblement. Jericho, il nous indique qu'il va affronter à nouveau Orange Cassidy dans 2 semaines et finalement la stipulation du match, ça va être que s'il gagne, Cassidy devra lui rembourser sa veste à $7,000. Et donc voilà, et que pour la semaine prochaine, pour le Dynamite de la semaine prochaine, Jericho il challenge Cassidy à un débat. Voilà. Et on a appris dans la semaine que ce débat serait animé apparemment par Eric Bischoff.
Ah d'accord, parce qu'il avait dit spécial modérateur, mais il n'avait pas dit le nom.
Il n'avait pas dit le nom, mais ça sera Eric Bischoff, le modérateur de ce débat. Donc voilà, à Bischoff qui aura vraiment bouffé à tous les râteliers, lui. Hein. L'opportuniste de Jacques Dutronc n'aura jamais été aussi bien adapté qu'à Eric Bischoff. voilà. Derrière, on verra aussi la signature de contrat des FTR, donc les ex-WWE Revival, qui signent leur contrat officiel avec la All Elite Wrestling. Voilà, donc tout se passe dans la joie et la bonne humeur, hein, avec Arn Anderson. Et ils annoncent pour le 12 août un Tag Team Appreciation Match Night, pardon. Et on va même avoir Adam Page qui va venir, bien évidemment, payer le coup pour la signature de contrat au FTR. Alors, il va servir du whisky à tout le monde. Et tu remarqueras que Adam Page, lui, il se sert un verre plein. Qui se siffle allègrement. Voilà, Adam Page a un vrai problème avec la bouteille. Hein. Voilà, mais ça,
ça ne hein.
regarde pas. Voilà, derrière, on va avoir un match. On va avoir un Tag Team Championship de la IW. Donc, Kenny Omega et Hangman Page versus le Dark Order qui vont être représentés dans ce match-là. Parce que si tu veux, au Dark Order, il y a beaucoup de catcheurs. Et en l'occurrence, ce sera Evil Uno et Stu Grayson, quoi, les deux historiques en fait du comment dire du clan.
C'est les catcheurs qu'ils ont capturés, c'est ça, au fur et à mesure ou
oui, ont capturé, recruté, si tu veux, au fur et à mesure. Et ça a commencé avec Stu Grayson et Evil Uno qui sont déjà arrivés. Ils avaient déjà ce qu'ils appelaient les mignons, quoi. Et puis les mignons, finalement, on leur a donné des numéros. Et donc, t'as numéro 5, numéro 8, numéro 10, voilà. Donc, des fois, qui viennent dans la mid-card, qui viennent affronter des catchers, etc. Stu Grayson et Evil Uno sont vraiment, la paire tag team référence à Dark Order.
D'accord.
Tout ça, c'est, au bout de quelques semaines, quelques mois, leur grand patron, leur saint patron a été dévoilé et il s'est avéré que c'était Mr. Brody Lee, donc l'ex-Luke Harper de la WWE, de la Wyatt Family. Et le Dark Order, si tu veux, ils sont un peu sur tous les fronts, tous les mercredis, et voilà, un peu dans la bataille, que ça soit en individuel, et en même temps, ils font du macronisme, ils font du en même temps, et ils font du recrutement. Donc, ils recrutent des mecs par Internet, Brody Lee. Là, tu vois, par exemple, Brody Lee, l'une des dernières recrues, c'est Colt Cabana. Voilà, il a pris Colt Cabana dans son giron, et il le lâche plus depuis, quoi.
D'accord, ok.
Voilà, donc là, on va avoir un match tag team. Alors, la tag team division, elle est... très vivante à la All Elite Wrestling, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, et certains sont blessés, certains assez historiques, comme les Lucha Brothers, entre autres. Et donc là, on va avoir un match pour le titre, qui va durer 14 minutes. Globalement, toujours avec un peu cette dysfonctionnalité entre Omega et Page, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi, voilà. Les avis sont tellement partagés sur ces deux catcheurs-là, de toute manière, que c'est très très compliqué. Voilà, donc on va avoir beaucoup de choses, beaucoup de distractions de l'arbitre aussi, entre autres, pour que Uno puisse en profiter pour passer un neckbreaker à Omega. Grayson va nous faire un gros dive sur le Canadien Mais derrière, retour du diable Vauvert de Adam Page pour coller les clotheslines comme il sait faire. Il va nous coller une powerbomb sur Uno. Derrière, Omega va enchaîner avec son V-Trigger. Le membre de Dark Order va devoir va s'en relever, mais derrière, en fait, il va se prendre une double team. Voilà, comme il est sonné des deux finishers qu'il vient de prendre, bah, il va se prendre une double team de la part de Kenny Omega et d'Hangman Page. Victoire des champions. Les champions conservent. Alors, qu'as-tu pensé? Alors, je vais juste finir avec le segment final. Il y a Brody Lee, évidemment, qui débarque, qui est furieux, quoi, hein, qui vient engueuler. Parce que Brody Lee, c'est pas un patron de clan très facile à vivre, hein, mon bon papy. Hein. Tu vois, oui. Il est un peu du genre tyrannique et un peu du genre pas content comme tu l'étais à Raw cette semaine. Et donc, voilà. Donc, il engueule grave Uno et Stu Grayson. Hangman Page, il est plus loin dans le ring et on le voit, il est mort de rire de ce qu'il voit, quoi. Donc, Lee dit que bah, tout ça, ça va pas bien se passer et qu'il va payer, quoi. Du coup, sentant que ça pue, il y a les Young Bucks qui débarquent et qui viennent se mettre en soutien de The Elite, quoi, de Page et d'Omega. Lee, il leur répète que bah, Dark Order, il est partout et que bah, évidemment, t'as des membres de partout qui arrivent, t'as des hommes masqués du Dark Order qui débarquent de partout. Les FTR débarquent aussi pour venir faire le sauvetage. Gros brawl général, alors là, avec un paquet de catcheurs, quoi, impossible de vous dire combien ils sont parce que là, c'est la grosse bagarre. Et voilà, et ça se termine ainsi parce que les Faces vont repousser finalement le clan du Dark Order et le segment tag team se termine là-dessus. Alors, papy, Division. Déjà, oui, t'as un match pour le titre par équipe, quand même, dans cet épisode de Dynamite.
Voilà, c'est bien. Bah, je pense que tant toutes les fédérations, à mon avis, font pareil. Ils ont compris que pour combattre la chute des ratings, il fallait foutre de l'événement à chaque épisode, histoire de faire de la pub et de gagner la guerre, quoi. La guerre, la baston.
Et ouais.
Mais ouais, alors après le match en lui-même, alors moi, je connais pas tous ces gens-là, donc j'avais déjà vu Omega une fois, j'avais pas trop aimé. Là, j'ai toujours pas accroché. Je trouve qu'il a des mimiques qui, t'as l'impression qu'il fait du théâtre, mais ultra exagéré, quoi. Le genre de mec qui a fait un clin d'œil à la foule ou n'importe quoi pour.
Ouais. Omega, il y a un truc qu'on peut signaler quand même sur Omega, voilà, et ça c'est un fait, ce n'est pas un avis que je donne. Il a été présenté comme la sixième merveille du monde du catch pendant tout son run à la NJPW. Depuis, il a participé à la création de la All Elite Wrestling, et il faut reconnaître que depuis qu'il est à la All Elite Wrestling, il est cantonné quasiment dans un rôle de mid-carder, puisqu'il a eu que un ou deux title shots pour le titre suprême qu'il a perdu. Et depuis, en fait, il est dans la mid-card, voilà, dans la Tag Team Division, où il est le champion, il faut quand même bien le dire, il est champion de la Tag Team Division de la All Elite Wrestling, mais il est un peu cantonné dans un rôle de mid-card, alors qu'il est porté au nu par des grands aficionados, comme d'autres le trouvent relativement moyen. Donc finalement, papy, à t'écouter, je comprends que pour l'instant, tu le perçois comme un catcheur, un mid-carder, quoi.
Il y a peut-être un peu de temps, mais c'est aussi surtout que... Je trouve que ces mimiques sont pas très. Elles me sortent un peu du match, quoi, tu vois. Autant Hangman Page, je trouve qu'il a un style de cowboy qui est très daté. Mais par contre, une fois qu'il est dans le ring, c'est vachement plus fluide, plus moderne. Enfin, j'ai aucun souci avec lui. Je le trouverais plutôt bon. Autant lui, c'est du catch-up papa. Alors, il fait des je suis surpris, bah, avec des yeux énormes. Alors, c'est peut-être un héritage du Japon. Peut-être que les réactions sont aussi ultra forcées. Mais là, ouais, ça faisait c'est ce que le catch forcément c'est exagéré. Mais là, c'était exagéré. C'était plus qu'exagéré. Là, ça faisait vraiment pas réaliste du tout ce qu'il faisait, quoi. Et sinon, voilà, quoi. Après, t'as un gros bordel final où. Moi, du coup, le Dark Order, je savais pas trop si c'était des mecs connus ou pas dedans. Je me dis, maintenant, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne. Je pense qu'on peut s'attendre à d'autres rivalités, à du plein contre plein les semaines qui viennent, à mon avis.
Ouais, Brody Lee, pour ton info, Brody Lee a déjà eu un title shot face à Moxley qu'il a perdu. Et le Dark Order s'installe de plus en plus comme le gros clan dominant à la All Elite.
Ils ont pris une femme en plus, j'ai cru comprendre qu'elle était nouvelle.
Elle est nouvelle.
Des commentateurs avec une femme à ses côtés.
Ouais. Pour la première fois dorénavant, il y a une femme dans le clan. Là. On ne sait pas encore exactement qui c'est, mais on va découvrir ça au fur et à mesure. Les femmes, d'ailleurs, c'est une bonne transition. Derrière, on aura un petit segment avec Britt Baker qui passe son temps en chaise roulante et qui est dans une rivalité un peu stupide, moi, je trouve, face à Big Swole. Voilà, ça va pas aller péter très loin, les amis, on va pas s'attarder là-dessus, ça a duré 1 minute 30. Derrière, on aura un petit vidéo package de la lutteuse qu'on va voir derrière, qui s'appelle Diamante, et qui va affronter la championne en titre Hikaru Shida. Ça va être un match ouais, quand même assez rapide, ça va être un match qui va durer 5 minutes 50. Voilà, la championne va pas laisser beaucoup de suspense, on va dire, dans ce combat, et va remporter ce match où le titre n'était pas en jeu. Diamante va quand même réussir à porter son Falcon Arrow, qui est présenté comme un peu une de ses armes fatales, mais elle aura qu'un compte de deux, le knee strike de Hikaru Shida pour finir. Voilà, victoire de la championne. Voilà, donc tu découvres la division féminine avec la championne, papy.
Ouais, bah après, sincèrement, j'ai pas trouvé ça fondamentalement. Ouais. Enfin, c'était un petit match où il n'y a pas vraiment eu de grosses prises, j'ai trouvé, ni de grosses surprises.
Ouais, non, il n'y avait rien à signaler.
Mais j'écoutais les anciennes reviews de la Baston du mercredi, et il me semble que la division féminine est un peu le point faible de l'AEW.
Ouais, c'est clair, ouais, jusqu'à présent. Ça va un peu mieux depuis quelques semaines, je trouve, mais effectivement, c'est un petit peu l'un des points faibles de la All Elite Wrestling, la division féminine. En tout cas, elle est loin d'être au niveau de la WWE, ça, c'est une évidence. Ouais.
D'accord.
Voilà, d'ailleurs, on va continuer à parler des filles, puisque il y a Vicky Guerrero qui va nous parler, parce que la All Elite Wrestling annonce pour cet été un tournoi par équipe féminin, où les équipes vont être constituées au hasard. Et Nyla Rose va être inclue dans le tournoi et elle fera équipe avec. Alors, mon bon papy, tu sais avec qui elle va faire équipe ?
Oui, je l'ai reconnu tout de suite.
Elle va faire équipe avec. Alors, son nom All Elite Wrestling, c'est Ariane Andrews, mais vous la connaissez peut-être mieux sous le nom de Cameron à la WWE, qui était une ex-Funkadactyl avec Naomi et qui est entre autres connue dans le milieu du catch pour avoir porté un tombé sur quelqu'un qui était sur le ventre et d'avoir engueulé l'arbitre de ne pas faire le compte, ce qui était un truc, je crois que ça date de 2015, ça c'était assez énorme, et elle avait été virée d'ailleurs peu de temps après. Et donc elle fait son retour à la All Elite Wrestling et elle sera donc impliquée dans ce tournoi qui va se dérouler cet été. On en saura plus la semaine prochaine. Derrière, yes. On va avoir, alors là, tu l'as certainement peut-être découvert, mon bon papy, mais Maxwell Jacob Friedman, MJF, qui est en ce moment un des gros heels de la World Wrestling, quoi, qui est un type pas très sympathique du tout, toujours accompagné de son enforcer Warlord, qui est un beau master et qui utilise un finisher, papy, presque comme Lesnar. Lui, c'est pas un F5, c'est un F10. Il a une prise de finisher assez spectaculaire, quoi. Et donc en fait là il s'est mis en mode MJF s'est mis en mode pupitre de politicien, discours de politicien, costard de politicien, tout ça avec son gimmick, avec son écharpe à carreaux et son pupitre à carreaux. Voilà, donc il nous annonce que Twitter va reprendre les hashtags MJF 2020. Voilà, en fait, il est en campagne pour le titre suprême, il est en campagne pour s'attaquer à John Moxley. Voilà, quoi, il considère que cette compagnie, elle a besoin de changer et que il en a marre que John Moxley organise ses matchs et fasse en sorte de jamais croiser sa route. Donc John Moxley n'est pas le champion de MJF. Voilà. Il dit que pour lui Moxley c'est pas l'un des meilleurs, quoi, et que tant qu'il l'aura pas rencontré, de toute façon, c'est sûr que ça sera pas l'un des meilleurs. Voilà, donc il nous explique que bah voilà, pour faire monter les ratings, il va falloir MJF, quoi, et que même Moxley veut pas que ça sache, quoi, il veut pas que ça sera un changement de cave définitif pour cette compagnie, que MJF la ramène au sommet pour les 25 prochaines années. Il voit loin le MJF, hein. Il est comme ça, ce garçon, quoi. Et voilà, donc une promo assez intense. Il a toujours cette tête très très méchante. Et là, ça fait plusieurs semaines qu'il harangue la foule MJF pour obtenir un title shot. Est-ce que tu crois qu'avec ce genre de promo, il va y arriver ?
À moi, franchement, je lui donnerais. Parce que pour le coup, j'ai trouvé que c'est un bon segment micro. Tu vois, du coup, moi, je découvre les gens. Et bah, lui, je le découvrais. Et j'ai trouvé plutôt bien aimé ce qu'il nous a sorti. Une prestation plutôt propre, avec bien dans le délire à fond du candidat, effectivement, à une élection ou un truc comme ça. Qui, alors du coup, c'est dans les segments qui n'étaient pas diffusés, je pense, mais à un moment, il va embrasser des bébés, il va serrer des mains, des fans, des trucs comme ça dans le public. Je trouve ça plutôt marrant. son discours, je l'entends son discours, et je l'entends, moi je lui donnerai ma voix, tu vois, je lui donnerai ma voix pour qu'il puisse avoir un match contre Moxley. Je pense qu'il, alors je sais pas ce qu'il, du tout ce qu'il vaut dans le ring, ce garçon, mais en tout cas son discours du vent du changement pour mettre IW Cat Again, alors je sais pas ce qu'il a dit, mais bon, c'était l'idée. Je l'entends et je le crois. Donc moi je vote pour lui.
Convaincu par MJF.
Tout à fait.
Voilà. Il donne sa voix à MJF. C'est beau, c'est magnifique. Oui. Voilà. Il en faut.
La jeunesse.
Ah oui, et pour le coup, MJF est un jeune catcheur. Hein. Un jeune catcheur, puisque pareil, lui, je crois qu'il est dans les 24-25 ans. Quoi. C'est vraiment lui. C'est une des découvertes, si tu veux, chez les Heels à la All Elite Wrestling. Depuis le début, hein, il est là. Il a eu une grosse rivalité face à Cody. Tu sais, il se balade, je sais pas si tu as vu, quand il est arrivé à son entrée, il a toujours une bague sur le petit doigt qu'il donne à Warlord, oui, avant de monter. Voilà, qu'il a remporté face à Cody, etc. C'est un gars qui fait des longues promos, qui fait des gros, beaucoup de packages vidéo avec des promos, etc. Il catch finalement relativement peu. Son catch, moi, je le compare un petit peu au Miz, sur tout l'aspect. Il a un catch un petit peu, enfin, moi, c'est moi, hein, qui dis ça à Papy, hein. Peut-être que d'autres te diraient autre chose. Hein. Mais moi, je le comparerais un petit peu au Miz in ring, quoi.
Oui, mais justement,
il a une capacité. Voilà, il a une belle capacité à raconter des histoires dans le ring. C'est pas forcément le meilleur des techniciens. Il a pas forcément un physique extraordinaire. Quand tu vois d'ailleurs Warlord à côté, qui est une masse, quoi, qui est un monstre. Mmh. Quoi. Mais le personnage tient la route et il tient super bien le micro. Et ça, avec l'amiral, on l'a signalé à maintes reprises. On est dans notre 12e édition de la baston du mercredi. Et je crois que sur chaque édition, de toute façon, à chaque fois, on l'a signalé. Hein. MJF, là-dessus, ce garçon est propre au micro.
Ouais, mais non, mais justement, je pensais aussi au Miz, tu vois. Quand je me posais la question de son in-ring, parce que je me disais, si jeune et déjà si bon au micro, ça fait penser un peu au Miz. Donc, bon, après, le Miz s'est amélioré dans le ring, hein, donc pourquoi pas de
l'espoir. Ouais, mais bon, le Miz a beaucoup plus de bouteilles que MJF, quoi.
Ah, bien sûr, il y a quoi, 15 ans de plus. Donc, forcément,
ouais.
C'est tout, hein. Donc, peut-être que dans 15 ans,
il sera
une référence dans le catch, comme le Miz l'est, je pense. Malgré ses détracteurs.
Ouais. Voilà, et ben c'est comme ça qu'on arrive à notre main event. De chaud, c'est chaud. Voilà, main event de Dynamite, un ODQ Tag Team Tornado match entre John Moxley, qui fait équipe avec Darby Allin et qui va affronter Brian Cage, The Machine, et Ricky Starks, qui doit être pour une première, il me semble, à la All Elite Wrestling. Je ne me rappelais pas avoir déjà vu catcher cet homme-là. Donc, c'était une toute première pour lui. Et on va avoir un main event de 7 minutes.
Ah, d'accord.
Voilà. Alors là, peu habitué que je suis les mercredis à voir les main events de Dynamite durer si peu de temps, j'ai été assez surpris par ce combat. Voilà, ils ont trouvé le moyen quand même en 6 minutes d'essayer de nous faire quelques trucs, de quelques spots un peu spectaculaires. Avec Aline qui va sortir son skateboard qui avait le dessous recouvert de punaise et il va attaquer Starks avec, quoi. De la prone, Moxley il va porter un gros armbar à Brian Cage et finalement c'est Aline qui va donner la victoire au face, qui après avoir sauté de la troisième corde avec son skateboard sur le dos de Starks, et finalement c'est la victoire pour les face. À la fin, les heels sont partis, il ne reste plus debout que Darby Allin et John Moxley dans le ring, et Darby Allin montre la ceinture de John Moxley. Darby Allin veut un title shot. Eh bien, écoutez, John Moxley, il n'est pas difficile, il n'est pas compliqué, ce garçon. Et il donne son title shot à Darby Allin. Et donc, la semaine prochaine, on aura un title shot. John Moxley versus Darby Allin. Alors, ce main event, ce premier main event, papy, de la All Elite Wrestling, de Dynamite, ce weekly, qu'est-ce qu'on a pensé?
Eh ben, ça va être simple, c'était nul. C'était
bah ouais.
Un main event de 7 minutes en tag team, Tornado. La stipulation était plus longue que le match lui-même, j'ai l'impression. Darby Allin, bah, il fait son skateboard. Ouais, super. Et puis, en fait, j'ai l'impression qu'ils l'ont coupé à mort pour pouvoir rallonger après le segment où il monte la ceinture. Attention, je vais prendre ton titre. Attention, je lève la ceinture bien haut. Ah mais ouais, je trouve ça tout pourri, moi, personnellement. Et du coup, je suis pas convaincu du tout qu'il soit number one contender, ce garçon. Mais bon, a priori, il l'est, et la semaine prochaine, ça sera lui. Mais moi, sincèrement, ça ne m'a pas du tout donné envie de les voir se battre la semaine prochaine entre eux. Ouais.
Alors moi, je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'écouter certaines bastons du mercredi, mais moi, j'avais déjà signalé que moi, je n'étais pas du tout fan de Darby Allin. Hein.
Et je comprends pourquoi, maintenant.
Moi, je fais partie de ceux. Alors là, pour le coup, Darby Allin, il m'indiffère, je le trouve dangereux. Et jusqu'à présent, il n'a pas réussi à me convaincre, quelles que soient les storylines dans lesquelles il a été impliqué. Donc déjà, j'ai un peu de mal avec ce catcheur-là. Je te confirme, voilà, un main event de 7 minutes, bah, je me suis dit, ah bah merde, on se retrouve à SmackDown, là. Ça y est, la All Elite, ils vont commencer à nous balancer des main events tout pourris, à peine correctement exécutés, je vais dire. Donc une vraie déception, ce main event, quoi. Puis alors moi, comme je déteste terminer les shows de catch avec un main event de faible qualité, j'ai pas été gâté sur cet épisode de Dynamite. Et voilà, et pour le coup, bah, je suis globalement d'accord avec toi, mon bon papy. Alors, peuple de catch-up, nous en avons terminé, ainsi s'achèvent ces reviews de NXT et de la All Elite Wrestling de Dynamite du 29 juillet 2020. La baston du mercredi ne se termine pas par un top flop et un note, mais par un vote, puisque nous allons donner chacun notre ressenti et qui a gagné cette baston du mercredi entre NXT et la All Elite Wrestling. Alors, juste pour l'info, si on répond tous les deux la All Elite, c'est la All Elite qui gagne. Si c'est tous les deux NXT, ce sera NXT. Si l'un et l'autre répondent différemment, ce sera un match nul, puisqu'il y a la possibilité du match nul à la baston du mercredi. Et ouais, ça peut arriver, des fois on se tape dessus. Et puis au final, ouais, bon, allez, vas-y, on arrête. Hein. on s'en est mis assez comme ça. Donc, papy, à qui donnes-tu ta voix cette semaine ? La All Elite Wrestling ou NXT ?
Ah, suspense, à qui je donne ma voix ? Alors, c'est comme on en discutait avant l'émission, effectivement, je n'étais pas trop sûr de mon vote avant d'en review ensemble. Et puis là, d'avoir fait la review ensemble, ça, j'ai très rapidement, finalement, arrêté mon choix. Parce qu'il y a un des deux shows où j'ai plusieurs segments sympas et un autre où c'est moyen, il y a un segment sympa et un main event tout pourri. Voilà, je pense que tu as deviné du coup pour qui ouais. Vote. Je vais voter du coup pour NXT parce qu'effectivement, que ce soit la prestation micro de Kisly ou le match à 3 pour la qualification pour le match à l'échelle là, c'était deux bons moments de NXT. Le reste était neutre sans plus. Tandis que les IW, bah, j'ai bien aimé du coup la promo de MJF, c'est ça ?
Ouais.
Et par contre, le reste m'a laissé plutôt de marbre, voire m'a plutôt déplu pour le main event. Donc, le NXT, finalement, sans trop de discussion à mon niveau.
Ok, donc la voix de Papy ira à NXT. Moi, ma voix, bah, c'est pareil. Clairement, le main event de Dynamite m'a tellement déçu que ça a bien gâché ma perception du show. Et à NXT, bah, j'ai plutôt bien aimé le main event. J'aime beaucoup Dexter Lumis, donc en plus qu'il gagne par-dessus le marché, c'était cool. La victoire d'Imperium, c'était cool. Les débuts de Mercedes Martinez, le petit match tag team des filles au début, c'était plus équilibré à NXT, j'ai trouvé, voilà quoi. Et effectivement, bah, on signalera, ça aurait pu être dans les top flop notes, mais effectivement, la promo de MJF cette semaine a été un exercice de style réussi. Les débuts de Zack Ryder, de Matt Cardona, donc à la All Elite Wrestling, mais tout ça, ça suffit pas pour moi non plus. Et bien, du coup, moi aussi, je vais donner mon vote à NXT.
Oh !
Donc, les champions de la baston du mercredi du 29 juillet 2020, eh ben c'est bien NXT. Voilà, ça faisait un moment, hein, si tu veux. J'ai pas checké sur nos derniers épisodes, mais la All Elite Wrestling avait remporté la mise quand même à plusieurs reprises. Et je pense qu'elle était en avance hein, sur NXT. Hein. Il y avait eu deux matchs nuls et ça devait être un truc genre. Je dirais genre 6, il devait y avoir 6 victoires pour la All Elite Wrestling, 3 victoires pour NXT et 2 matchs nuls, il me semble le compte. Donc voilà, donc là on en est à 6 victoires pour la All Elite Wrestling, 4 victoires dorénavant pour NXT et 2 matchs nuls. Voilà pour cette 12e édition de la baston du mercredi. Et ben voilà, ben mon bon papy, on arrive au bout, on va balancer balance ta promo.
Balance la sauce.
Alors, on y va. Vous retrouvez la team catch-up partout. Vous nous retrouvez sur Discord. Venez sur Discord. N'hésitez pas à venir vous inscrire. En plus, vous pouvez y poser vos questions en direct. Et voilà, et on peut vous citer à l'antenne si vous avez des choses à dire sur ces ondes. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux habituels, Facebook, Twitter, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr et bien sûr et surtout bien évidemment toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcasts, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Pour la petite info rigolote, je suis allé ce matin sur Spotify et j'ai été ébloui par les ratings de la dernière review d'Euro réalisée par Papy et moi-même.
C'est vrai.
Vraiment les ratings sur les plateformes de podcast, c'est super, ça fait plaisir. Mais on a tendance à regarder de temps en temps YouTube parce que bien évidemment vous trouvez sur YouTube, n'oubliez pas d'aller sonner la cloche, de vous abonner, de mettre des pouces vers le haut, vers le bas comme vous voulez, mais laissez-nous des commentaires, faites quelque chose quoi sur YouTube là. Alors évidemment on n'est pas forcément le produit idéal sur YouTube, on n'est que de l'audio, mais c'est sympa, ça marche bien et du coup donc on remercie nos auditeurs, on remercie le peuple de Catch Up pour sa présence. C'était notre 12e édition de la baston du mercredi. Mon bon papy, je te remercie beaucoup d'être venu faire le tag team partner of the day.
Oui, merci pour l'invitation, merci de m'avoir fait découvrir finalement cette baston et cette nouvelle fédération. C'était très intéressant, merci pour tes explications.
J'espère que ça t'aura surtout donné envie de recommencer à l'occasion cette petite baston du mercredi. Peuple de catch-up, on vous laisse là-dessus, on vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy.
Salut tonton et salut à tous.
Salut peuple de catch-up. Moi, quand j'ai vu Zack Ryder, je me suis dit, mais il est où son copain Dawkins? Je me suis dit, c'est pas possible, ils ont signé en duo, tu vois.
Non, mais il l'a mangé, je pense.
Il aurait mangé Dawkins?
Ça expliquerait la largeur.
Ah, c'est ça, la prise de masse.
Eh oui.